Merci à vous et merci à vos trois contributions pour donc essayer de faire travailler la perspective de la socialisation sur les comportements. Et donc je prends quelques minutes pour essayer de faire mes commentaires à partir des textes qui m'avaient été envoyés, des communications que vous avez entendues. Et puis ensuite, la discussion sera lancée avec la salle. Donc, de mon côté, je ne vais pas faire de rapprochement systématique entre vos trois communications, entre vos trois textes, hein, mais ce qu'il y a de commun, on va dire, dans mes remarques, ben, c'est le point de vue et c'est les pistes que je vais essayer de tendre en direction de l'analyse de la socialisation, hein, puisque c'est la raison de ma lecture et de ma présence, et donc autant de pistes, alors qui, j'espère, pourront donner lieu à des échanges, peut-être tomberont parfois à côté de votre matériau lorsque c'est pas cette question-là qui est au principe de la construction de votre objet. Mais donc c'est un ensemble de pistes pour essayer de rendre plus visibles à la fois les lieux et les instances de socialisation, les processus de socialisation en eux-mêmes et leur articulation. Donc voilà, c'est quelques remarques, quelques questions qui vont dans ce sens-là. Et donc je vais procéder de cette manière-là. Donc d'abord votre texte et votre intervention, Charles. Donc à propos du rôle que joue des activités dites pro bono, fondées sur le principe de la gratuité, vous montrez effectivement le rôle à la fois au niveau de la profession, du cabinet lui-même et des professionnels, la fonction sociale et symbolique que joue cette activité-là à ces niveaux-là. Et donc moi j'avais un certain nombre de questions avec, il me semble que une hypothèse importante qui peut en arrière-plan, même si vous l'avez plus explicité dans votre exposé, hein, c'est l'idée qu'il y a une articulation entre une socialisation scolaire, la socialisation liée autour de la clinique juridique, hein, qui a une articulation entre cette socialisation scolaire et la socialisation professionnelle, au moment de l'intégration dans ces grandes entreprises internationales, et que donc la participation à ces activités pro bono permettrait l'actualisation d'une socialisation scolaire préalable, permettrait de réajuster aussi la vocation ou le rapport au métier pour ces nouveaux arrivants dans ces cabinets d'affaires, et que donc en quelque sorte le pro bono serait l'occasion de réactualiser des dispositions éthiques et de réajuster finalement ces avocats. Donc effectivement utiliser le cas un peu idéal typique, hein, d'une avocate, hein, qui dit comment ça lui fait du bien dans son activité de se consacrer à ces activités-là, ou cet avocat qui parle des racines du métier. Et donc mes questions principales vont dans le sens de justement, est-ce que vous pouvez préciser cette articulation-là et la socialisation qui sont associées. Merci. Je l'ai trouvé. D'abord, est-ce que vous pouvez un peu nous préciser ce qu'il en est, même si vous avez donné quelques aspects aujourd'hui de cette socialisation scolaire, notamment dans les cliniques juridiques. Est-ce que vous trouvez la trace de la construction d'un rapport vocationnel et d'un rapport de ce type-là au droit dans ce type de formation-là? Est-ce que dans le cours des entretiens, au cours des entretiens et de l'enquête de manière générale, est-ce que vous avez la trace de cette première socialisation au droit et la trace de telle disposition éthique qui ensuite viendrait être actualisée par cette activité du pro bono? Un peu dans le même sens, je m'interrogeais, j'étais assez surpris, mais mon regard très très lointain et naïf, sur le fait que le pro bono semble jouer semble avoir un rôle important dans le recrutement des nouveaux venus. Vous parlez donc de concours de beauté que font les cabinets d'avocats pour attirer les meilleurs, ou en tout cas les supposés meilleurs avocats, et vous évoquez le fait que le pro bono apparaît comme un ingrédient important de leur recrutement, si j'ai bien compris. Est-ce que vous avez des éléments pour objectiver cette attractivité du pro bono dans le recrutement de ces professionnels? Est-ce que c'est des choses que vous retrouvez dans les récits ou dans les observations d'une manière ou d'une autre? J'en arrive du coup à une question un peu dans la poursuite de ces interrogations sur cette socialisation scolaire au Doha. Est-ce que vous observez des rapports différenciés à cette activité gratuite, avec beaucoup de guillemets? Un des managers, si j'ai bien compris, parle de sentir les étudiants, les futurs professionnels qui ont cette fibre-là. Hein, il dit qu'ils ont une odeur, entre guillemets, particulière. Est-ce qu'il y a des rapports différenciés à cette activité-là? Est-ce que certains semblent s'y consacrer à 100%, si j'ai bien compris? Est-ce qu'au contraire, c'est fui et dédaigné par d'autres? Est-ce que vous arrivez finalement à dégager des rapports différenciés, peut-être des trajectoires en arrière-plan, dans ce rapport au pro bono, hein? Donc, vous montrez bien le rôle qu'il a globalement dans la régulation de cette activité-là, mais est-ce que derrière ce premier portrait, est-ce que vous arrivez à dégager des rapports différenciés, des investissements aussi différenciés dans cette activité-là? Voilà. Quelques remarques et questions également pour le deuxième texte. Donc, on passe au secteur bancaire. Et donc, j'avais un petit peu le même réflexe de demander quelques précisions, dans la mesure du possible, du matériel sur la visibilité et l'objectivation des processus de socialisation en jeu. Alors, une première série de remarques sur plutôt la première partie du texte ou de la communication, hein, qui montre un relatif consensus chez l'ensemble des salariés sur le principe de prime individualisée au mérite. Hein, c'est ce que vous retrouvez dans vos entretiens, et vous le mettez en lien avec d'autres enquêtes, et du coup, forcément, on a envie peut-être d'en savoir un peu plus sur la genèse de cette adhésion-là, sur les lieux où peuvent se forger une telle adhésion au principe. Voilà, hein, puisque vous nous dites en particulier, vous évoquez deux pistes, à la fois la socialisation à l'école, socialisation scolaire, comme un lieu potentiel d'adhésion à ce rapport-là, et la socialisation au travail. Hein, vous l'évoquez notamment dans la conclusion. Hein, voilà, mais finalement, c'est assez peu montré finalement dans le texte, hein, la réalité de cette genèse-là, de cette socialisation-là. Et puis, comme vous faites le lien avec l'adhésion de manière générale à une nouvelle culture professionnelle, à une nouvelle culture bancaire liée à la modernisation d'un secteur, à l'adhésion à une culture commerciale, etc., et bien, de manière générale, on se demande comment finalement se produit cet ajustement assez magique, entre guillemets, entre les salariés et ce tournant, hein, vous parlez du tournant du secteur bancaire, comment se réaliser cette conversion au tournant bancaire du côté des salariés, comment cette nouvelle culture bancaire est inculquée, transmise auprès de ces salariés de manière générale, en quoi leur mode de socialisation scolaire y concourt, en quoi il a été transformé et permet d'expliquer cette nouvelle adhésion. En quoi la socialisation professionnelle y concourt. Là, dans ce registre-là, on peut imaginer que la densité des évaluations individuelles que vous évoquez. Du coup, qu'est-ce qu'il y en a aussi, toujours sur cette première partie, qu'est-ce qu'il y en a de cette adhésion au principe lorsqu'il y a une confrontation, on va dire, avec la réalité de la distribution des primes? Est-ce que cette adhésion reste toujours aussi enthousiaste et positive lorsque les primes ne sont pas au rendez-vous? Et donc, on peut se demander comment évolue ce rapport à cette évaluation individuelle, alors que l'on voit bien par la suite, hein, les écarts dans la distribution des primes. Et puis, deuxième petite série de remarques, cette fois-ci plutôt sur les évaluateurs et les managers donc, qui distribuent les primes. Donc, vous différenciez deux modèles, hein, deux figures qui ont des conceptions, des appropriations différentes du principe de cette distribution de primes individuelles, avec donc une opposition entre des jeunes diplômés d'un côté et des anciens moins diplômés de l'autre. Et vous mettez donc en relation ces conceptions normatives de l'évaluation avec leur trajectoire. Et donc là, ma question, c'est plutôt sur la manière dont vous entendez la trajectoire socio-professionnelle. Et la question que je me posais, c'est est-ce que finalement, est-ce que cette différence entre anciens peu diplômés et plus récents peu diplômés, est-ce que ce n'est que la traduction d'une différence d'intérêt, c'est-à-dire qu'ils classent en fonction de leurs propres ressources, et donc qu'ils classent de manière privilégiée en fonction des propres ressources dont ils disposent, ou est-ce que c'est le produit aussi d'une socialisation scolaire ou professionnelle? Donc est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? Et est-ce que, si c'est le résultat d'une socialisation, est-ce qu'on peut aller jusqu'à parler d'une différence de génération? Si ce n'est pas seulement une question de ressources, mais une différence de génération, en gros, est-ce qu'il existe deux générations sociales, deux managers ou d'évaluateurs, en tout cas, dans ces entreprises-là, qui ont connu des contextes de formation et d'exercice du métier différents? Est-ce qu'on peut aller vers là? Est-ce que vous avez, du coup, des éléments sur leur trajectoire sociale au sens large, qui permettent de, je sais pas, de tester cette hypothèse-là, ou est-ce que je me fourvoie complètement? Voilà. Et puis, dernier texte donc, qui porte sur la consommation, excusez-moi, qui est le point de départ d'étudier la socialisation à travers la consommation, à travers des actes d'achat. Et donc, il est montré avec détail et précision comment se constitue petit à petit un sens de l'orientation, un sens spécifique au sein de ces marchés-là. Et comment se précise, s'ajuste, se développe des catégories d'appréciation sur ces marchés. Et donc dans votre première question, dans votre texte, vous associez beaucoup cette pratique-là, donc des achats de seconde main, à la bonne volonté culturelle. Vous dites que c'est à la fois le résultat, et ça traduit des dispositions de type bonne volonté culturelle et hédonisme tempéré. Et donc j'avais des questions pour essayer de préciser en tout cas ce que je perçois de cette activité-là, de ces comportements-là. D'abord, je me demandais s'il y avait d'autres comportements de consommation en dehors de ceux de récupération, donc de seconde main, cohérents avec ces actes-là. Et autrement dit, est-ce qu'il y a un certain type de rapport à l'argent aussi qui s'exprime dans ces achats de seconde main? C'est-à-dire que est-ce que c'est seulement l'expression d'une bonne volonté culturelle, ou est-ce que ça implique un type de rapport à l'argent, de manière de considérer l'argent, de faire des économies, de rechercher des bons plans, etc., qui serait relativement cohérent et peut-être irrigue un ensemble de pratiques de ces personnes-là. Et donc, est-ce qu'il est possible de repérer des rapports à l'argent cohérents au sein de ces fractions que vous observez? Avec une question plus courte sur la sélection de vos enquêtés, hein, du coup, comment vous avez sélectionné votre population, parce que du coup, on s'interroge en vous écoutant. Et puis, une deuxième question, mais à laquelle vous avez en partie répondu par la fin de votre exposé, c'était moins présent dans le premier texte, c'est dans quelle mesure cette bonne volonté culturelle, donc vous identifier, que vous repérez par le biais de ces activités d'achat de seconde main, dans quelle mesure elle s'exprime aussi dans d'autres pratiques culturelles? Est-ce que c'est un schéma, un type de disposition qui, là aussi, irrigue ou s'actualise dans leur rapport aux activités culturelles de manière générale, ou est-ce que c'est quelque chose qui est assez isolé et qu'on ne peut pas généraliser, qu'on ne peut pas voir, en tout cas, de manière plus générale? Et puis une deuxième question qui porte cette fois-ci plus sur leur socialisation en tant que acheteur. Alors je fais un lien notamment avec une communication qui portera justement demain sur la socialisation à l'argent au sein de ces fractions sociales, enfin, notamment au sein de ces fractions sociales, notamment au sein des fractions des classes moyennes à capitaux culturels. Martine n'est plus là, donc je peux dire ce que je veux. Non, voilà, qui montre hein, la spécificité de la socialisation dans le rapport à l'argent au sein de ces fractions sociales. Et d'après ces auteurs de ce texte-là, ce qui est particulier, c'est la précocité de l'enseignement et du souci pédagogique dans le rapport à l'argent. Hein, dans ces fractions à capitaux culturels dominants des classes moyennes, ce qui apparaît, c'est la construction assez précoce d'un rapport réflexif, planificateur, qui passe par le biais de toute une série d'apprentissages sur comment consommer. Bon, je ne vais pas en dire plus puisque ça sera fait demain, mais du coup, je me demandais si vous retrouvez des choses de ce genre-là sur votre terrain, et en particulier dans la socialisation, on va dire, primaire de vos enquêtés. Est-ce que vous trouvez des traces des prédispositions finalement à devenir des acheteurs intensifs, on imagine, de ces biens de deuxième catégorie? Et puis une autre question, mais là aussi ça dépend évidemment de votre matériau, est-ce que vous avez, vous, par le biais de vos enquêtés, observé la socialisation de leurs enfants lorsqu'ils en ont? C'est-à-dire, est-ce que ça me faisait penser à quelqu'un que j'ai croisé en début de semaine au moment où je lisais votre texte, et qui partait avec ses enfants justement faire une brocante et qui donnait comme consigne à ses enfants d'être obligé de négocier. Ils ne pouvaient pas acheter s'ils n'avaient pas négocié. Donc je me demandais si vous avez observé ce genre de pratique socialisatrice au cours de ces brocantes et différents lieux de seconde main. Voilà.
Merci pour ta lecture et tes questions. S'agissant de ta première question, donc sur l'articulation entre socialisation scolaire et socialisation professionnelle par rapport aux racines du métier, les articulations que j'observe sont donc déjà des articulations autour de ce lieu qu'est la clinique juridique. Je réexplique pour être sûr, parce que j'ai l'impression que quand je dis clinique juridique, tout le monde ne comprend pas immédiatement. Donc une clinique juridique, c'est un lieu qui est tenu, alors, aux États-Unis en général, au sein des communities, et qui est donc animé par une association de quartier, et où les étudiants donc d'une université et les membres donc du cabinet viennent et donc reçoivent des gens qui ont des problèmes de droit de la consommation, droit de la famille, expulsion locative. Ces gens-là exposent leurs problèmes et après on voit si on peut les traiter. Donc ça c'est le lieu, si tu veux, le lieu commun entre ces deux types de socialisation. Après, au sein des universités, par exemple, je reviens des États-Unis, c'est aussi pour ça que je cite beaucoup les États-Unis au détriment de la France. Il y a des cours donc sur le pro bono qui sont animés. Alors à Northwestern, il y en a un qui est animé par le pro bono partner d'une grande firme avec un professeur. Parfois, ces cours s'appellent Legal Ethics, Business and Human Rights. Et donc, aux États-Unis, ces gens-là grandissent avec l'imagerie du droit. Hein, comme on voit dans j'y reviens toujours, mais les films et les séries, le rôle de l'avocat, le rôle de l'avocat comme fabricant du droit. Donc, et ces représentations sont dans leurs esprits assez puissantes. Et alors, l'autre articulation que je vois, c'est que, mais bon, j'abandonne parce que ça va me mener trop loin et je ne veux pas monopoliser la parole. Pour ta deuxième question, donc sur le recrutement. Donc d'abord parce que j'ai parlé des classements, des palmarès. Aux États-Unis, vous avez le média de référence juridique qui s'appelle The American Lawyer, et donc ils ont un classement qui s'appelle The A-List, et donc les grands cabinets sont classés. Et dans ce classement, il y a un indicateur de la performance pro bono. Et ce classement est regardé par les diplômés en droit, parce que bon, ils choisissent en général au cours de leur deuxième année. Et la concurrence est partout. La concurrence, elle est entre les cabinets, elle est entre les jeunes diplômés, et tout le monde veut aller vers les meilleures firmes. Donc le pro bono compte. Et aussi, donc, j'ai dit qu'ils étaient recrutés au cours de leur deuxième année. Donc entre à l'été de la deuxième année de leur année cursus en droit, les firmes viennent faire ce qu'ils appellent des on-campus interviews, et donc c'est là qu'ils choisissent leur futur collaborateur. Et ce qui est vrai aussi, c'est que par rapport à la puissance de l'imaginaire que j'ai mentionné, moi j'ai rencontré personne qui me dit le droit des affaires me fait vibrer. J'ai vraiment envie de faire de la fusion-acquisition. Donc, ils ont, ça rejoint un peu le vocabulaire des motivations de Mills. Ils préfèrent dire, voilà, moi, ce que je veux, c'est sauver le monde, faire les droits humains, défendre la veuve et l'orphelin. Et ça renvoie aussi au passage de Bourdieu dans l'anthropologie économique que je cite, quand il dit « Tout se passe comme si on ne pouvait pas mettre sur le fronton les affaires sont les affaires ». Et pour ta troisième question, oui, il y a des rapports différenciés. Alors, je verrai deux variables. Tout d'abord, en fonction du genre. C'est-à-dire que, là encore, en termes de représentation, il y a cette idée qui circule que le service, l'idéal de service serait un idéal féminin. Et on trouve aussi, moi j'ai entendu des enquêtés me dire, le droit des affaires c'est la guerre, donc c'est une conception synégétique du droit, et aussi dans la façon dont le cabinet est construit, donc vous avez les départements corporate M&A, droit des affaires, droit social et contentieux, et le département pro bono en fait c'est le département droits humains. Mais on ne peut pas l'appeler comme ça, parce que les droits humains, ça ne rapporte pas. Les femmes, enfin, plus que les femmes, en fait, il faut regarder quels sont les départements du cabinet qui sont les plus actifs en pro bono. Et dernière chose, sur la nationalité aussi, qui compte, parce que donc, vous vous en doutez, quand on est états-unien, on n'a pas à être convaincu qu'il faut faire du pro bono. Le pro bono, c'est vraiment dans les gènes, ça fait partie de la philanthropie à l'américaine. Un cas intéressant, je termine là-dessus, c'est le managing partner de la firme A dans mon enquête, qui est de nationalité états-unienne, mais qui a fait son droit en France. Donc, il est un petit peu clivé. Globalement, ceux qui sont plus pro bono le trouvent trop froid, trop mitigé par rapport à...
Alors, merci pour ces questions. Je ne vais pas pouvoir répondre à toutes. Peut-être pour y répondre, je vais partir un petit peu de la genèse rapidement de l'enquête. Donc moi, initialement, quand j'ai commencé cette recherche, je m'intéressais aux rémunérations variables et à ce que les rémunérations variables font au travail, au rapport salarial, au rapport à l'entreprise, aux pratiques professionnelles. Et pour ça, donc, je suis allée voir dans différents secteurs. Je suis allée voir les salariés. Je les ai interrogés sur toutes ces questions-là. Et en fait, très rapidement, ça va me permettre de répondre à ta question sur l'écart entre adhésion au principe et puis mise en pratique. C'est qu'en fait, ce qui ressortait du côté des salariés, c'était dans le principe, c'est super, les primes sur objectif. Ça permet... Dans l'idéal, c'est formidable, ça permet de reconnaître le mérite individuel, mais en pratique, finalement, c'est de la note de gueule. C'est l'expression qu'ils utilisent en disant justement que c'était injustement mis en œuvre. Donc, à partir de là, je suis allée voir comment justement c'était distribué. Donc je suis pas partie de la socialisation économique pour comprendre les pratiques économiques, mais je suis partie plutôt des pratiques économiques et puis j'ai essayé de comprendre comment elles se construisaient. Donc j'ai évidemment pas réponse à toutes tes questions en partant de ce point de vue-là. Alors d'abord sur la question aussi de l'adhésion à la culture dite commerciale. Alors j'étais pas là dans les années 80, ce qui apparaît néanmoins, et tu as remarqué juste du point de vue de ce que tu appelles la densité des évaluations, c'est que de fait les évaluations sont permanentes et les managers les mobilisent sans arrêt tous les matins. Enfin ça dépend des services, mais tous les matins ou au pire toutes les semaines on fait un point sur les objectifs. C'est un outil de mobilisation de la main d'œuvre, donc c'est un support utilisé par les managers. Donc ça irrigue le quotidien de travail, et dans le quotidien de travail aussi ça vient pas que de la hiérarchie, c'est qu'en permanence les salariés se comparent les uns les autres. Donc on a sur le lieu de travail finalement on a pas seulement imposition, parce que finalement il y a aussi réappropriation, mais de cette culture commerciale et de cette logique de l'évaluation. Après, moi, ce qui m'avait aussi étonnée, c'est que j'ai rencontré aussi quelques salariés qui n'avaient pas de prime au mérite, de prime sur objectif. Et en fait, les quelques personnes qui n'en avaient pas, c'était plutôt dans les services plus administratifs, en fait, le regrettaient. Parce qu'elle disait, j'en ai une notamment en tête, qui m'expliquait, finalement, mon travail n'est pas visible. Étant donné que j'ai pas ces primes, il n'y a pas de visibilité de ce que j'apporte en plus à l'entreprise. Donc cette adhésion, elle est bien réelle en principe. Après, dans la mise en œuvre, de fait, c'est plutôt, ça crée énormément de frustration. Donc de fait, au sein de l'entreprise, cette culture commerciale, elle est entretenue. Et après, en termes de socialisation scolaire, il faudrait aller voir, et d'autres le font, justement dans les écoles de commerce, parce que beaucoup viennent d'écoles de commerce, comment justement il y a toutes ces théories des incitations, toutes ces théories des motivations qui justement mettent en avant tous les atouts, entre guillemets, de ces primes et de quelle manière ça peut faire partie d'une socialisation scolaire. Je n'irai pas sur ce terrain-là parce que pour le coup, j'aurais un matériau vraiment lacunaire, donc je peux l'évoquer comme ça, mais ça serait pas très sérieux. Après, du point de vue des deux figures de managers qui ont donc deux conceptions différentes de la distribution des primes, on peut y voir finalement une forme aussi de socialisation professionnelle, au sens où les anciens, moins diplômés, en bénéficient eux-mêmes, c'est-à-dire d'autres, ceux qui les encadrent. En fait, ils ont connu plusieurs managers au cours de leur parcours et eux-mêmes expliquent qu'ils ont bénéficié de traitements différenciés justement en fonction du profil de manager. Et c'est justement, finalement, en voyant le traitement dont ils bénéficiaient, qu'ils l'ont eux-mêmes reproduit. Donc c'est comme s'il y avait une transmission, en fait, justement, de l'usage de ces primes. Après, aussi, une autre chose. Donc derrière, c'est moins une question d'intérêt que vraiment une conception de la justice qui est façonnée par ces trajectoires socio-professionnelles. Avec derrière aussi juste un élément pour finir sur aussi cette confrontation avec la réalité, c'est que le problème aussi fondamental de toutes ces primes au mérite, c'est qu'en fait on ne sait pas ce qu'on met derrière le mérite concrètement. Donc finalement les salariés sont les premiers à revendiquer des objectifs quantifiables, mesurables. Et conteste justement donc ce qu'ils appellent cette note de gueule qui serait totalement subjective et relèverait juste de la bonne volonté du manager. Et concrètement, derrière, quand on questionne un peu c'est quoi le mérite, qu'est-ce que vous reconnaissez, on va retrouver des choses très classiques, type disponibilité, le fait d'être motivé, donc toutes ces caractéristiques qui sont difficilement justement quantifiables et justement pour lesquelles les femmes sont très rapidement pénalisées. Voilà.
Merci donc de vos remarques et questions. Je vais commencer par la sélection des enquêtés. Ce n'était pas évident du tout au départ puisque c'est une recherche qui a été financée par l'ADEME et on nous demandait de travailler sur le gaspillage. L'idée, c'était de savoir si les gens avaient conscience de gaspiller. Il fallait les amener à une conscientisation, c'est un néologisme heureux. Bon, et donc j'ai essayé, à l'intérieur de ce cadre-là, de construire un objet sociologique et de naviguer là-dedans. Donc, je suis allé dans ces lieux alternatifs. Et les enquêtés se sont un peu imposés d'eux-mêmes. Pourquoi ? Parce que dans les vides-greniers, mais aussi dans les lieux parisiens que j'ai évoqués, vous avez une minorité de gens qui sont un peu lookés, qui ont une certaine apparence, une apparence qu'on peut qualifier de bohème. Hein. Pas forcément de bobo, qui n'a pas de sens, mais de bohème. Très orientés du côté de la culture. Alors on peut les confondre avec des gens qui ont un look un peu proche, qui sont plutôt sur le versant économique. Donc petit à petit, on exerce aussi son œil. Et on s'aperçoit que, voilà, en s'adressant à eux, on retrouve toujours un peu les mêmes professions, de l'enseignement, de la culture, des gens qui sont dans le design graphique, qui sont dans les professions du bien-être, comme une femme qui est accompagnatrice en psychopédagogie perceptive, etc. Voilà, donc on a toujours un peu ce profil-là. Alors, qu'est-ce que c'est que ce profil ? Alors, comment est-ce qu'il peut se construire ? Lise Bernard parle, à propos des cols blancs du commerce qu'elle étudie, d'une cohérence sociologique. On a eu l'occasion d'en discuter à un moment où elle est venue présenter ses travaux à Poitiers. Et j'ai le sentiment voilà, les miens, enfin mes informateurs se situent vraiment dans le cadran opposé, exactement en face, c'est-à-dire qu'ils sont exactement dans une cohérence sociologique qui correspond à peu près à celle qu'on peut voir en miroir du côté économique. Alors, est-ce que c'est très très rigoureusement défini de mon côté ? Peut-être pas, puisqu'il y a beaucoup de biais dans la manière de recruter ces enquêtés, mais correspondent quand même donc professionnellement à un certain type situé du côté de la culture, avec moins d'argent que de capital culturel. D'autre part, ils sont j'essaie de retrouver mes idées, pardon. Cohérence sociologique, j'avais un point. Oui, voilà. D'autre part, ils sont correspondent aux héritiers positionnels, au moins, s'ils ne sont pas leurs enfants, sont au moins les héritiers positionnels de cette petite bourgeoisie nouvelle ou de ces nouvelles classes moyennes dont parle Anaïs Collet. Et j'avais le sentiment que, sur son terrain, elle était en train de repérer ces gens-là à partir d'une pratique qui était la gentrification donc du bâti, et que, finalement, ce à quoi se livrent mes informateurs, c'est à une forme de gentrification des objets. Voilà. Donc, de proche en proche, j'avais le sentiment d'avoir affaire à une population à peu près cohérente. Est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que c'est suffisamment rigoureux ? Je ne sais pas, je l'espère. C'est un peu le... Voilà, je viens aussi un peu avec cette question, à vrai dire. Mais enfin, plus j'avance, et plus ça me paraît satisfaisant, et plus ça me paraît solide. C'est aussi pour ça que je continue à creuser. Voilà. Deuxième aspect... C'était sur la cohérence des comportements économiques. Donc, est-ce qu'on a des rapports à l'argent au sein de ces fractions qui seraient cohérents ? Alors, on rencontre chez eux, évidemment, des précaires qui sont dans ces professions qui sont sujettes aujourd'hui à la sous-traitance. Donc, on a des gens qui sont installés en indépendant, qui font du graphisme, etc., et qui ont des budgets relativement serrés, mais finalement, est-ce que ce sont seulement eux qui ont des budgets serrés ? Pas forcément. Dans l'ensemble de cette population, il y a un sentiment d'avoir de petits budgets. Et c'est une coïncidence, mais les quelques personnes que j'ai rencontrées qui ont un petit peu plus d'argent, qui sont un petit peu plus à l'aise, sont dans des situations dans lesquelles ils ont divorcé et ils ont des pensions alimentaires élevées à payer. Dans un cas, il y a un déménagement à Paris depuis la province qui fait qu'il faut payer un loyer aussi élevé. Et donc, le budget aussi se rétrécit. Donc là encore, sont des gens qui finalement sont tous caractérisés non pas par des difficultés financières, mais en tout cas par la nécessité de faire attention. Et donc ils cherchent tous à réaliser des affaires, mais ils ne le font pas de n'importe quelle manière. Et c'est l'une des différences peut-être avec d'autres catégories. Par exemple, j'ai fait dans les vides-greniers, j'ai fait quelques entretiens avec des classes populaires, des membres de classes populaires. Et ce que l'on voit, c'est que ce ne sont pas du tout les mêmes critères d'évaluation des objets, pas du tout le même rapport à la valeur. Souvent, c'était un sou est un sou. On pouvait échanger de la nourriture contre des objets. J'ai vu, on échange avec quelqu'un des paquets de BN pour les enfants parce que c'est toujours ça, c'est toujours des biscuits. Les marques vont compter énormément, mais pas du tout de la même façon que dans chez les moyens cultivés. Là, il y a beaucoup moins de discernement. Une paire de chaussures Nike, c'est une paire de chaussures Nike, point final. Voilà. Et c'est valorisé en tant que tel. Voilà. Il y a une importance gigantesque de la marque. Donc, il y a une vraie différence, hein, à mon avis, et ça ajoute peut-être à cette cohérence de cet ensemble. Est-ce que la bonne volonté culturelle est repérable dans d'autres activités ? Donc, moi, je l'ai défini, je trouve qu'ils se définissent comme étant cultivés, ils s'imposent comme étant cultivés, d'abord, évidemment, parce qu'ils sont diplômés, parce qu'un certain nombre d'entre eux œuvrent dans les secteurs de la création, bien sûr. mais surtout parce qu'ils ne cessent pas de s'entourer de culture. Et ils ne cessent pas. Donc, le vide-grenier, ça devient une pratique culturelle. C'est d'abord une occasion de faire des bonnes affaires, ça devient une activité de loisir, ça peut être requalifié en pratique culturelle, mais c'est aussi un canal pour la culture. Ça fait venir de la culture dans l'espace domestique et ça permet de s'entourer de culture et de devenir de plus en plus cultivé. Voilà. Donc, j'ai du mal à différencier finalement les autres pratiques culturelles, puisque voilà, ils sont tous danseurs, musiciens, amateurs de vinyle, voilà, ils ont tous ces passions-là, mais on va les retrouver dans le vide-grenier. Et finalement, le vide-grenier, c'est peut-être l'aspect le moins culturel et le plus commercial voilà, de cet ensemble de pratiques. Sur oui, la précocité de l'enseignement, le souci pédagogique, est-ce que dans la socialisation primaire, est-ce qu'il y a eu un travail, est-ce qu'ils sont prédisposés voilà. Alors, sur la socialisation de leurs propres enfants, je n'ai pas vu grand-chose, sauf que je me souviens d'un cas d'un enquêté qui me dit que... mais là, c'était vraiment dans les entretiens, qui me dit qu'il a tendance à orienter sa fille vers des Disney que lui juge comme étant des films de qualité. Parce que ce sont des films qu'il a appréciés. Alors, il parle un peu de transmission, et puis il dit, voilà, ça, c'est important. Puis j'essaie d'éloigner un peu de tous ces trucs en plastique, voilà. Mais je n'ai pas beaucoup plus que ça. Il ne me dit pas qu'il lui donne de l'argent en demandant de respecter un budget, par exemple, ou de négocier, ou de... Non, je n'ai pas ce type d'anecdote ou voilà, d'observation. Enfin, sur les prédispositions... Alors, moi, sur leur socialisation primaire... Je ne crois pas avoir beaucoup d'éléments, enfin, je regarde plus précisément, mais il ne me semble pas avoir posé vraiment des questions là-dessus. Mais ce que l'on voit en tout cas, c'est que, effectivement, si ce que décrivent les collègues sur cette socialisation très précoce, là, critique, effectivement, est avérée, moi j'en vois des effets, puisqu'ils sont très, très, comment dire, très disposés à voir des arnaques, des manipulations partout. IKEA, c'est le repoussoir. IKEA, c'est vraiment, c'est cité dans 70% peut-être des entretiens comme le contre-exemple de ce que c'est qu'un distributeur de qualité, respectueux de ses clients, de ceux qui fabriquent. Bon, voilà. Et en même temps, ce qui est étonnant, c'est qu'ils creusent assez peu. C'est-à-dire qu'ils ont leur repoussoir, ils ont ces effets de réflexivité qui les mènent à critiquer quelques grandes enseignes, mais en même temps, ils tombent dans d'autres panneaux. Je vais terminer avec cet exemple. Je me souviens très précisément, mais c'est arrivé à plusieurs reprises sur d'autres enseignes, un designer graphique qui me dit « Oui, voilà, donc IKEA, c'est plus possible, donc nous, maintenant, c'est Maison du Monde. Voilà. » Mais bon, Maison du Monde, c'est pas... Alors peut-être qu'il confondait avec Artisan du Monde, il est possible. Hein, sur le moment, j'ai peut-être pas gratté suffisamment. Mais enfin, des exemples de ce type-là, j'en ai y a un pléthore dans le corpus.
Merci à tous les trois pour vos papiers, à Julien Bertrand pour la discussion. J'avais deux petites questions pour Charles. Parce que du coup, Julien Bertrand a posé cette question sur est-ce que finalement c'est vraiment important quand on est un diplômé d'une Ivy League en droit, la politique de pro bono du cabinet qui sera celui qui va nous payer le mieux pour faire de la FUSAC. Il me semble que dans ce qui a été évoqué dans le papier, ce qui est assez convaincant, c'est les 50 heures de pro bono obligatoires pour être inscrit au barreau de New York. Du coup, je voulais savoir si 50 heures, c'était beaucoup par rapport... Alors, je voulais savoir si ça avait été possible d'établir une moyenne du nombre d'heures facturées en pro bono dans les firmes étudiées. Par rapport à cette moyenne, est-ce que 50 heures, c'est beaucoup ou pas ? Pour le dire autrement, est-ce que c'est compliqué de faire 50 heures de pro bono si on est dans un cabinet qui n'a pas une politique active de pro bono ? Donc, c'était la première question. Et la deuxième, y a dans un des entretiens qui est cité, la question de la socialisation religieuse est évoquée. Ça n'a pas été repris dans la réponse qui a été faite sur les rapports différenciaux pro bono parmi les enquêtés. Je veux savoir si c'était possible d'y revenir. Une question qui n'est pas directement corrélée, mais que moi j'avais vue dans la philanthropie d'entreprise de façon générale, c'est qu'il y avait une surreprésentation alors des femmes, tu l'as dit, mais aussi des salariés afro-américains dans les postes de responsabilité de la philanthropie d'entreprise. En gros, ceux et celles qui étaient en charge du bénévolat d'entreprise. Et là, en l'occurrence, du coup, c'est la question. Est-ce que ceux et celles qui sont en charge, qui sont des pro bono managers, pour reprendre le terme qui a été utilisé, est-ce qu'ils sont plutôt plus femmes et plutôt plus noires que le reste des avocats des firmes qui sont étudiées? Merci.
J'avais une question pour Sophie. Dans le cas des salariés, on voit bien qu'ils sont socialisés par la pratique de leur propre prime et qu'ils sont salariés, ils sont socialisés par l'exemple des primes des autres. Alors tu as dit dans la réponse, ils passent leur temps à se comparer, à comparer leurs primes. Mais est-ce qu'ils se parlent de leurs primes? Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'ils se disent et qu'est-ce qu'ils se disent pas? Et est-ce que ça forge des rapports à la prime et à l'argent, à la rémunération plus généralement, qui diffèrent, etc.
Pour les trois présentations, j'avais deux petites questions, mais alors c'est un peu brouillon, je suis désolé. Une question pour Charles et une question pour Sophie. D'abord, sur la question de tes enquêtés, donc tu distingues, si j'ai bien compris, Charles, ceux qui font une forme de philanthropie salariale parce qu'ils font quelques heures de pro bono, de ceux qui sont du pro bono temps plein, du full-time pro bono. Et dans ce cas-là, est-ce que les tensions qu'il peut y avoir dans l'exercice du métier sont encore plus fortes? Est-ce qu'ils sont complètement marginalisés? Enfin, je veux dire, voilà, être 100% pro bono dans un grand cabinet d'avocats d'affaires M&A, est-ce que ça change et la différence que tu vois aussi éventuellement entre l'exercice en France et l'exercice aux États-Unis sur ceux qui sont 100% pro bono. Voilà, c'était peut-être une question en termes aussi de profil social, de socialisation, voilà, que tu observes. Une autre question sur un autre terrain. Donc, alors, j'ai pas bien compris quel était le terrain parce qu'il est anonymisé. C'est très bien, Sophie. Mais pour avoir travaillé sur un autre secteur de la finance, en l'occurrence les fusions-acquisitions, sur laquelle la rémunération au bonus est assez importante puisque très rapidement ils vont doubler leur salaire. On retrouve une très très forte tension. Alors, sans doute du même ordre, je ne sais pas, mais entre effectivement l'idée d'une évaluation légitime et que finalement le bonus est l'unique reconnaissance de l'engagement dans le travail, en même temps avec des dispositifs d'évaluation qui sont extrêmement complexes et sur lesquels les gens sont extrêmement critiques en même temps, mais surtout il y a un rapport prix de marché sur les personnes qui est extrêmement puissant, avec un système de benchmarking entre les différentes banques. Donc, est-ce que, là, dans l'impression du terrain que tu donnais, on avait l'impression, en fait, d'un système un peu de la banque qui fonctionne en elle-même. Or, si j'ai bien compris, les jeunes, s'ils sont mieux payés, c'est pour pas qu'ils partent aussi. Et donc, qu'est-ce qu'il en est de ces principes de benchmarking, de ces principes aussi de chasseurs de tête, éventuellement, qui viennent, je sais que, voilà, si vous voulez, les évaluations en M&A tombent en février, les primes tombent en mars. Au 31 mars, ils ont posé leur démission s'ils veulent gagner plus d'argent. Ça se passe de cette façon-là. Donc, c'est à la fois, effectivement, une reconnaissance, mais aussi tout simplement un prix de marché. Je suis désolé, c'était peut-être pas très clair. Merci. Et merci beaucoup à tous les trois.
Moi, j'ai une question aussi pour Charles. Justement, je me trompe sur le pro bono, mais j'ai l'impression que les multinationales, il y a quand même une sélection des cas. Genre, ils ne prennent pas les cas de tous les pauvres. Et donc, du coup, il y a quand même dans cette sélection, j'imagine qu'il y a aussi toute une sélection où il y a un certain profit symbolique. On prend peut-être des cas qui vont faire jurisprudence, on prend des cas qui vont apporter, une certaine légitimité à la firme. Donc, du coup, je ne vois pas trop en quoi, ou peut-être je me trompe, hein, mais en quoi ça serait une socialisation différente à celle du profit, en fait. Il y a quand même un profit qui est quand même symbolique. Et du coup, je ne vois pas trop la différence entre ça et les autres cas, quoi.
Moi, c'est une question pour les trois. Le thème de la journée, c'est socialisation économique. Et il me semble que le point commun entre vos trois communications, qui étaient toutes les trois de qualité, parce que vous avez fait des enquêtes de qualité, Et des réflexions, vous avez mené des réflexions de qualité, mais le point commun de vos trois présentations, c'est que vous êtes partie des pratiques. Et Julien, à qui je me suis identifiée, parce que demain matin, je vais devoir faire pareil, il s'est accroché aux branches pour essayer de vous poser des questions, pour vous ramener vers le thème de la socialisation. Et donc, du coup, moi, la question que je me pose, mais que je nous pose collectivement, en fait, c'est... pour travailler sur la socialisation, est-ce qu'il faut mettre en œuvre des dispositifs d'enquête spécifiques, enfin, il faut construire l'objet d'emblée comme ça, ou bien est-ce qu'en travaillant sur les pratiques, il y a moyen de revenir aux socialisations? Donc, un des problèmes étant comment étudier les socialisations en pratique. Alors, j'ai encore vu Julien dire, et alors les enfants, est-ce qu'on... Donc voilà, si on est sur les socialisations en pratique, bien sûr, il faut remonter toujours plus en amont l'école, avant l'école, la famille. Donc, bon. Donc on va remonter dans les socialisations primaires. Et ça suppose des dispositifs d'enquête spécifiques. Si on ne fait pas ça et qu'on part des pratiques, comment est-ce qu'on peut travailler sur les socialisations? Et il me semble qu'une piste, c'est les variations, du coup. C'est de faire varier. De voir en fait déceler des variations dans les pratiques des acteurs sociaux qu'on étudie et de voir du coup en quoi ça pourrait et faire l'hypothèse que ça reviendrait à des socialisations différenciées en amont. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai l'impression que ça, on pourrait le poser à vos trois communications dans le fond. Mais voilà, je me dis, enfin. Encore une fois, j'ai vraiment trouvé que c'était très intéressant et j'ai découvert ces trois enquêtes et c'était passionnant. Mais vous êtes venu à cette journée socialisation, donc pourquoi vous, ça vous intéresse de faire ça? Et qu'est-ce que vous en attendez? Et enfin, voilà.
Puis avoir de temps pour les questions par la suite. En fait, j'avais des questions pour vous trois, mais vous avez déjà pas mal répondu à ce qui a déjà été posé. C'est juste une petite qui reste pour Charles. Parce que... Dans les extraits d'entretien que tu montres et dans les rapports à ce pro bono, ça pose la question de est-ce que c'est dans quelle mesure c'est des calculs conscients, ça rejoint un peu la question d'Anna quelque part, des calculs conscients qui cherchent à confirmer sa moralité, un peu comme le protestant de Max Weber là, qui cherche à confirmer son salut, mais de manière conscient, rationnelle en finalité, ou en valeur, je ne sais pas, mais en tout cas rationnelle. Ou est-ce que c'est des choses qui sont plus intériorisées comme une volonté spontanée de faire le bien et là, dans l'extrait d'entretien, enfin, un des extraits d'entretien qu'il y avait, on voyait quelque chose qui ressemblait plus à du calcul, bon, peut-être à une rationalisation a posteriori présentée comme du calcul, je ne sais pas trop, mais est-ce qu'il y aurait d'autres extraits de terrain, d'autres morceaux de terrain qui montrent de vraies indignations, par exemple, une volonté sincère de réparer des torts? Voilà, c'est une question que je me pose.
Pour ces trois interventions, moi j'aurais une question pour Sofiane et je voulais savoir si c'était possible d'en savoir un peu plus sur les différences entre terrains pour savoir comment l'espace peut agir comme support de socialisation éventuellement différencié. J'imagine qu'un vide-grenier dans le Marais n'est pas exactement la même chose qu'un vide-grenier dans un bourg rural ou enfin dans d'autres contextes. Et est-ce que ça joue le rôle de socialisation? Et peut-être aussi en savoir un peu plus sur les différenciations en termes de genre au sein de ces pratiques d'achat et les socialisations genrées du coup, qui peuvent s'exprimer dans les vides-greniers.
Je vais essayer de répondre vite et bien à toutes vos questions. Alors Anne, 50 heures. C'est tout le problème de la mesure de ce travail à l'heure. C'est-à-dire que si vraiment tu veux prendre un vrai cas pro bono, avec de la complexité juridique dans le dossier, en fait, 50 heures, c'est rien, c'est vraiment rien. Si maintenant tu considères du pro bono industriel, ce qu'ils appellent the bread and butter of pro bono, genre les trucs, c'est limite des grilles ou de expulsion locative et tout, 50 heures, ça peut être fait, mais moi, là, c'est un point de vue que je livre, mais c'est mal fait. Bon. Sur la religion. Oui, la religion compte. J'arrête pas de dire que le pro bono, c'est très américain. On voit bien que le rapport à la philanthropie n'est pas le même. Et je livrerai juste deux éléments. Le premier, c'est qu'en France, ce que je constate, c'est qu'il y a des avocats et des avocates qui disent « Moi, ce qui m'énerve, c'est que la firme
fasse de mon désintéressement une politique d'entreprise, justement. C'est qu'ils préféraient que ce soit que leurs activités caritatives restent privées. Et ça me fait penser, c'est une note dans la noblesse d'État, une réponse des Muliez Fildar à une demande d'entretien de Bourdieu et Monique de Saint-Martin. Et en fait, il cite, je ne savais pas, mais c'est Saint-François de Sales, « Le bruit ne fait pas de bien, le bien ne fait pas de bruit ». Et sur les Afro-Américains, oui, oui et non, parce qu'en fait, dans ces cabinets où la religion joue un rôle, c'est-à-dire que vous avez des cabinets, un des cabinets qui a donné ma firme B, à la base, c'est un cabinet juif qui n'embauchait que des juifs. Mais bon, je vais être désolé d'enfoncer des portes ouvertes, mais il n'y a pas de grand cabinet afro-américain. Alors, ta question, Joël, ça m'a fait penser à deux choses. La différence donc, entre ceux qui sont à temps plein et ceux qui font, les avocats qui font leurs heures, mais qui facturent aussi des heures. La responsable pro bono de la firme A est turque. Elle s'appelle, bon, je livre son nom, je pense que ça va aller, Özgür. Et les membres du cabinet la disent Özgür au secours. Parce que en fait, elle est tout le temps en train de les chasser. Et eux, bon, ils ont pas, c'est pas des pro bono champions. Ils sentent pas le pro bono. Et la différence après que tu vois, c'est que donc on peut être dans un cabinet equity partner, non equity partner. Il y en a un qui gagne plus que l'autre. Donc quand on est pro bono partner, on est non equity, on est salarié. Donc on gagne moins d'argent et parfois on vous fera sentir que vous ne rapportez pas directement d'argent. Je vais y revenir sur la question du profit. Bon voilà, je passe. Alors sur la sélection des cas, c'était la question d'Anna. Oui, il y a une sélection des cas, mais l'hypothèse que tu as présentée est l'hypothèse, on va dire, optimiste, c'est-à-dire ce sont des gens qui font vraiment du contentieux stratégique, qui cherchent les bons cas et tout, qui vont faire évoluer la jurisprudence. Et en fait, c'est plutôt qu'ils sont corsetés par le fait qu'ils sont liés par des pitchs, par des contrats de longue durée avec des sociétés comme Total et donc BNP. Et quand vous travaillez pour Total, vous ne pouvez pas faire du pro bono avec Greenpeace. Je prends les exemples un peu caricaturaux. Et donc, sur le profit, oui, bien sûr qu'il y a toujours du profit, mais la question... C'est au-delà de l'interro-désintéressement, je pense que c'est ça qui est intéressant avec le pro bono. Moi, j'essaie de faire une sociologie non-économiciste de l'intérêt. C'est que ça pousse vraiment à se demander où commence le symbolique et où finit l'économique. Alors, la grosse question de Céline. Je vais essayer de te répondre par les méthodes. Je pense qu'un entretien biographique, ça se prête plus à entrer sur les socialisations. Quand un avocat d'affaires vous prête une heure de son temps, c'est quand même dur d'entrer directement sur ces questions-là. Et ça me fait penser, Dezallée, dans l'entretien qu'il avait donné à Culture et Conflit, sur enquêter sur la noblesse d'État, tout ça, il dit, moi, je commence direct par, au fait, avec qui étiez-vous au jardin d'enfants ? Il ne faut pas la poser à la fin, cette question. Mais bon, c'est parce que Dezallée, il est avec Garth, comme il dit, Garth, il a ses capitaux. C'est quand même dur, voilà, quand on est d'arriver, de poser direct cette question. Rémi, donc, est-ce qu'il y a des calculs conscients ? Alors là, désolé, je vais faire du gros rouge qui tâche, du culturalisme à outrance, mais je trouve que, et c'est aussi parce que je reviens des États-Unis, avec les États-Unis, c'est toujours dur de dire s'il y a du calcul, s'ils sont sincères. Ce qui est sûr, c'est qu'ils y croient. Ils y croient vraiment. Mais je crois que ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas du calcul derrière.
Alors, d'abord, sur la question de la comparaison. Donc on parle, en fait, ce qu'expliquent les enquêtés, c'est qu'on parle des primes au travail, on se compare, mais pas avec tout le monde. On n'en parle pas avec tout le monde. On en parle, en effet, avec plutôt donc des proches avec lesquels, finalement, on va avoir des traitements comparables. Ce qu'ils expliquent tous, c'est qu'ils ont toujours un moyen, ils ont toujours entendu une conversation à côté, trouvé un document, il y a toujours eu quelque chose qui leur a permis de connaître ce que touchaient les autres. Donc c'est pas des discussions. Donc il y a des discussions vraiment entre proches et après il y a toujours des moyens de trouver et donc de se comparer et ce qui crée après aussi des formes d'aigreur. Mais après chacun aussi a un intérêt à ne pas forcément en parler de ces primes. C'est-à-dire que ceux par exemple les plus anciens qui bénéficient de ces arrangements ils sont explicites aussi avec leur hiérarchie quand ils en bénéficient. Ils discutent explicitement de cet arrangement. Ok, je ne peux pas t'accorder cette augmentation de salaire, donc écoute, on va remonter tranquillement sur quelques années avec des primes. Et comme ça, on va compenser progressivement. Donc ça, c'est plutôt difficile d'aller en parler avec les collègues. Donc on peut en parler avec d'autres qui connaissent le même traitement. Mais il n'empêche qu'on a ces informations par ailleurs, de manière informelle, tellement que par moment, on peut se demander si le manager ne fait pas exprès de laisser ses documents pour les rendre visibles. Mais ça, je n'ai pas la réponse. Ensuite, sur la question des prix de marché, évidemment, c'est tout à fait pertinent. Alors, moi, juste pour préciser, donc, je ne suis pas allée sur les bonus, je ne suis pas allée sur les traders. Je suis allée plutôt sur... je les ai laissés de côté parce que c'est vraiment un cas très spécifique. Et ce qui m'intéressait, c'était les rémunérations un peu plus ordinaires. Néanmoins, il y a bien évidemment cette logique de prix de marché, de benchmarking. Et on retrouve, Gottschall montre ça avec, chez les traders où justement les bonus peuvent être utilisés soit pour retenir, soit pour récompenser les traders. Là, de fait, c'est une banque qui n'arrive pas à retenir en fait ces jeunes diplômés. Ils se comparent en effet. Il y en a une autre qui les attire particulièrement et avec laquelle ils se comparent. Mais disons que dans leur carrière, ça leur permet de démarrer. Mais ils tendent à ne pas rester dans cette entreprise qui justement leur offre des primes moins avantageuses, d'après les informations qu'ils ont par ailleurs par d'autres anciens. D'autres copains, etc. Ensuite, par rapport à la question Céline, de fait, alors, pourquoi je suis là moi, ce qui m'intéressait, de fait, oui, j'ai pas parti sur la question de la socialisation économique, et je l'ai dit. Après, ce qui m'intéresse, c'est la fabrique de ces pratiques économiques. Alors, subrepticement, de fait, tu vas retrouver la question de la socialisation. Mais c'est vrai que, de fait, j'ai pas le matériau qui me permet d'aller au bout, parce que c'était pas mon entrée. Donc, pour répondre à ta question, je pense que malgré tout, on peut la reconstruire a posteriori, mais j'ai du mal à croire que si on ne se pose pas la question au départ, on arrive quand même à se saisir de cet objet. Je me trompe peut-être, mais ça me paraît compliqué pour le coup. Donc moi, voilà, c'est vrai que je suis vraiment partie plutôt, ce qui est ressorti, c'est plutôt comment ces pratiques économiques sont façonnées par les trajectoires socio-professionnelles. Après, justement, ces trajectoires, elles sont aussi vectrices de socialisation. Après, on ne va pas jusqu'au bout de ces différentes étapes, quoi. Donc voilà.
Pourquoi est-ce qu'on vient parler de socialisation économique ? Enfin, pourquoi est-ce que j'ai pensé que je pouvais parler de ça à partir de ce terrain ? Parce que déjà, est-ce que toute la socialisation est primaire ? Non. Et donc il est question là de socialisation secondaire. De socialisation secondaire dans des contextes de consommation. La question moi, que je me posais, c'est qu'est-ce qu'ils font de ces consommations, ces gens-là ? Et aussi, qu'est-ce que ces consommations, en quoi est-ce que ces consommations vont les transformer ? Et pas seulement se poser à plat, mais se demander comment est-ce que ça les rend plus forts, c'est-à-dire dans la lutte, dans les luttes de classement, comment est-ce que ça va les aider à devenir de plus en plus forts, hein, ou les affaiblir, ou voilà. Donc, il n'y a pas de méthodologie particulière sur la socialisation. Moi, j'ai fait une enquête qui était orienté sur le gaspillage, sur la question du gaspillage, et j'ai ajouté au fur et à mesure des questions qui allaient de plus en plus dans le sens d'un objet que je construisais en même temps. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir trouvé des éléments sur la manière dont ils apprennent, dont ils vont préciser leurs dispositions, comment ils vont mettre en place un milieu socialisateur, c'est-à-dire des objets qui vont faire dispositif dans l'espace domestique notamment. Enfin voilà, j'ai un certain nombre d'exemples, aussi bien sur le vide-grenier d'apprentissage, de transformation, de renforcement, et puis aussi dans l'espace domestique. Mais effectivement, ça ne va pas au-delà, et je suis absolument incapable de remonter en deçà, dans la socialisation primaire. les différences de terrain, l'espace est socialisateur, pas en tant que pas tout seul. C'est ce que j'essayais de dire, l'histoire des affordances ou voilà des transformations par un milieu comme ça de manière univoque, ça ne fonctionne manifestement pas. Mais il y a évidemment des différences entre ce que l'on apprend, ce que l'on fait, entre voilà la rue, je ne sais plus quoi là dans le Marais, et puis un bourg, un village. Oui, tout à fait. Alors ça, j'en ai parlé un petit peu. La première des choses, c'est qu'ils apprennent à catégoriser différemment. Ils apprennent à catégoriser différemment et à y faire des choses différentes. Parce que ce sont souvent les mêmes qui sont capables eh bien, aussi bien de faire des vide-greniers sur l'île de Ré que dans le 20e, que au Halles, enfin dans le quartier des Halles, il y a de beaux vide-greniers avec des choses qui paraissent assez intéressantes parce qu'il y a des gens qui ont de l'argent et qui se font un devoir de ne pas les vendre trop cher pour ne pas se montrer justement trop intéressés. Et puis qui vont aussi aller faire des vide-greniers dans des villages éloignés pendant l'été. Bon, ce sont les seuls qui subsistent. Et donc, ben voilà, alors ils apprennent, mais ils n'apprennent pas à le faire de manière hyper stratégique, c'est ce que j'essayais de dire. C'est qu'ils apprennent à s'y promener, à y prendre du plaisir, à y trouver des objets plaisants, etc. Et je ne crois pas qu'il y en ait qui soient réservés, enfin qui se réservent, qui soient tout le temps abonnés aux vide-greniers hyper ruraux et d'autres qui sont enfermés dans les vide-greniers de campagne. Et puis d'ailleurs, il y a les vide-greniers, mais il y a aussi tous ces autres lieux, toutes ces ressourceries, recycleries. Donc il y a tout un circuit qui se fait. Alors ensuite, hommes et femmes, donc j'ai pas, sur le genre, je n'ai pas cherché pour l'instant à creuser. Ce que je voulais, c'était surtout avoir une idée de ce qu'étaient les dispositions à l'œuvre. Enfin, au sein de cette population caractéristique. Mais les hommes et les femmes n'achètent pas les mêmes choses. Les femmes, c'est assez typique. Elles sont du côté de la vaisselle ancienne. Elles achètent beaucoup d'assiettes, énormément d'assiettes, et elles s'en plaignent d'ailleurs parce qu'elles disent qu'elles en achètent trop. Ça fait écho quand même. Elles en achètent trop. Et des verres aussi, et puis des vêtements. Voilà. Et les hommes de l'autre côté, ils sont très souvent collectionneurs du vinyle. Il y a beaucoup de voilà, ils achètent beaucoup de vinyle. Et qu'est-ce qu'ils achètent aussi je ne sais plus. Enfin, il faudra que ça me reviendra. Donc, enfin, il y a des spécificités. Les femmes peuvent avoir un rôle moteur parce que elles peuvent emmener leur compagnon au vide-grenier ou leur compagne. Elles peuvent avoir un rôle moteur. Et lui, ensuite, peut découvrir l'intérêt. On peut le traîner puis il découvre que. Et peut-être qu'il y a on peut se dire qu'il peut y avoir des choses à étudier sur la socialisation dans le couple. Est-ce que le goût de l'un ne peut pas évoluer? Sincèrement, je n'ai pas trop vu ça. Moi, j'ai vu plutôt chacun fait son tour dans son coin avec ses préoccupations, avec son expertise, avec ses passions. Et je n'ai pas trop vu de chine ensemble. Apparemment. J'ai pas trop vu de gens qui chinaient ensemble et qui construisaient vraiment leur goût ensemble. Peut-être sur des grosses pièces, il y a des concertations, mais ce n'est pas hyper fréquent de rapporter une grosse pièce chez soi, ce n'est pas ce qu'on fait tous les dimanches. Et dernier point, si je devais creuser quelque chose davantage, ce ne serait pas le genre pour l'instant, c'est sans doute une question importante, mais ce serait plutôt la dotation en capital culturel. Parce que je me suis aperçu que là, il y avait vraiment de très grosses différences à l'intérieur de la population, en termes de compétences spécifiques, stylistiques. Il peut y avoir des gens qui sont diplômés, qui ont une culture dans d'autres domaines, mais qui ne sont pas capables de décorer correctement, de choisir correctement un meuble, un vase, une paire de chaussures, etc. Qui ne se sentent pas compétents. Et souvent, je me suis aperçu que ceux qui n'étaient pas compétents avaient très besoin de s'appuyer sur des affects, de discuter avec les gens, d'intégrer l'histoire des gens à l'évaluation de l'objet. Tandis que ceux qui sont beaucoup plus dans des espaces de calcul balisés et qui sont beaucoup plus experts, le font bien moins souvent, ils en ont bien moins besoin. Et ils vont beaucoup plus vite. Voilà. Et ça, je trouve que c'est un aspect chouette à creuser, plus intéressant.